Non, justement, être victorieux dans le Seigneur. Sur cet simple mot, ces trois simples mots, tout est résumé, l'œuvre du Seigneur. Tout est accompli. Tout est fait. Tout est bien fait. Alléluia. Ce que Dieu fait, il le fait bien. Amen. Alléluia. Si vous faites faire des rénovations chez vous, parce que vous n'avez pas les talents, disons, manuels et tout ça, faites refaire votre cuisine, et on vient, un entrepreneur fait la cuisine et tout ça, c'est merveilleux, il dit, il va vous dire à un moment donné, c'est fait, tout est fait. Tout ce qui vous reste à faire, hein, c'est d'en profiter. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de rentrer dans la cuisine, puis oh, voir toutes les nouvelles choses et tout ça, profiter de la cuisine, puis de toutes les mets que vous allez vous faire et tout ça. Mais vous n'aviez pas le pouvoir, peut-être, en frais de talent et tout ça, de faire cette cuisine, mais ça a pris quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose pour notre âme. On n'a aucun pouvoir de sauver notre âme. On n'a aucun pouvoir sur notre âme. Mais le bon entrepreneur, le grand entrepreneur, Jésus, alléluia, a tout accompli. Amen. Tout est rénové. Tout est fait. Tout est pardonné. Tout est fait dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est d'entrer et de saisir. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la disette. Ah, vous êtes là. Et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est en train de dire, ouvre la porte. Entre. Ouvre la porte de ton cœur. Laisse-moi entrer. Alléluia. Et tu vas sortir, tu vas vivre, tu vas voir tous ces verts pâturages que j'ai pour toi. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Tout est fait. Alléluia. On n'a rien à y ajouter, on n'a rien à enlever. Tout est fait. Le monde met sa foi sur des choses fragiles. Le monde met sa foi sur des choses passagères. Mais nous, on doit mettre notre foi en Jésus. Ça, c'est du rock. Ça, c'est du solide. Amen. Alléluia. C'est pas sur les richesses. C'est pas sur la pensée des hommes. C'est pas sur les hommes autour de nous. C'est pas sur nos talents, nos capacités, la technologie, tout ce qui se fait qu'on doit reposer notre foi. Notre foi doit reposer sur du solide. Et là, Jésus est notre roc. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Je regardais un reportage cette semaine et c'est assez étonnant ce que la technique font, hein, la science. Vous avez peut-être vu les petites puces qu'ils mettent en arrière, proche du cerveau. Ils sont en train d'essayer ça. Là, ils vont mettre des puces dans proche du cerveau, tout ça, qui va donner des facultés spéciales. Un enfant à l'école va devenir un surdoué. Ils vont être en mesure de contrôler tout ça, toutes les parties du cerveau, pour aller chercher le plus possible. Hein, on sait qu'on utilise très peu notre cerveau, tout ça, mais avec ces puces-là, insérées dans le cou, tout ça, tu vas devenir des super-héros, là. Tu vas avoir des facultés. C'est assez impressionnant, vous avez peut-être vu ça. Hein? Mais ce qui est encore plus étonnant et qui fait froid dans le dos, c'est que quelqu'un a dit durant ce reportage, vous savez, un jour, je pense qu'il parlait des gouvernements, tout ça, vont décider qui est un être humain et qui est un robot. Ils vont tellement mettre la technologie et des choses dans le corps humain pour des facultés qu'à un moment donné, ils vont dire, « Oh, c'est-tu un humain ou j'ai affaire à un robot? » Puis là, il va falloir que quelqu'un prenne une décision. On pense que c'est un humain. Pas sûr. « Oh, c'est un robot. » Parce que ça va tellement se mélanger. Ils disent de la technologie avec l'être humain. C'est quelque chose de sapeurant. Et vous savez, dans ce reportage, ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'il n'est pas question de l'âme. On ne parle pas de l'âme. On parle de la technologie, de la science, des découvertes, puis tout ça, mais on met de côté l'âme. Et Dieu, l'important pour Jésus, c'est quoi? C'est l'âme. Au-dessus de la technologie, au-dessus du corps, au-dessus des choses, au-dessus du matériel, au-dessus de l'intelligence, Dieu dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ceux qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. Ça, c'est solide. C'est le Seigneur, alléluia, qui est le grand technicien de notre âme. Amen. L'âme ne peut pas toucher ça. Il peut toucher de toutes sortes de choses, mais peut rien y faire. C'est un incompétent. Il sera toujours incompétent vis-à-vis l'âme. Seul Jésus peut faire la différence. Alléluia. Alléluia. C'est pour l'homme aujourd'hui, c'est passé date. C'est rendu arriéré ou débandé, tout ça, de parler de l'âme et de parler de Jésus et de parler de ces choses. Eh bien, ça reste toujours actuel pour le Seigneur. Amen. Pour nos vies, tout est accompli, c'est pour aujourd'hui. Tout est accompli, c'est pour aujourd'hui. L'orgueil de l'homme nous éloigne de toutes ces choses. Lorsque l'orgueil nous saisit, lorsqu'on se croit brillant, vous croyez-vous brillant? Vous savez, c'était le nom de Satan, ça. L'astre brillant. L'astre brillant, c'est cru brillant. Et parce qu'il s'est cru brillant, il s'est fait chasser. Il a tout perdu et tout ça. Et la Bible dit, « Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es battu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Toi, le vainqueur des nations. » Et quand Paul parle aux Romains, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. L'homme se croyant sage est devenu fou. L'homme ayant atteint certains sommets sans Dieu, se croit bien brillant et tout ça. Il fait de sa propre vie son propre Dieu. Hein? Il se croit Dieu et tout ça. Mais nous savons que notre foi doit reposer sur du solide. Amen. Tout est accompli. La Sainte Seine qu'on va prendre par la foi ce matin nous ramène à cette réalité que tout est accompli en Jésus. Vous connaissez la tour de Pise? La tour de Pise, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Un croche. Mais pensez-vous qu'ils l'ont conçu comme ça? Ils ont dit, nous autres, on va construire quelque chose de croche. Ça va avoir de l'allure? Mais non, ils l'ont construit pour qu'elle s'élève fièrement, qu'elle soit droite et tout ça. Bien, il y a eu des défauts dans la construction et ils ont appuyé leur fondation sur une certaine roche qui s'appelle la Marne. Et cette roche est très sensible à l'eau et tout ça, puis fait que le sol est instable. Fait que la tour a commencé à pencher. Et la sagesse de l'homme, ça c'est la sagesse de l'homme, hein, pensait que ça allait s'élever tout ça, mais elle s'est mise à pencher. Puis ils ont même été obligés d'empêcher les gens d'entrer, puis de la solidifier, sinon aujourd'hui, elle serait à terre. Ça, c'est l'homme qui base sa fondation sur quelque chose d'instable, qui base sa foi, qui met sa foi sur des choses futiles, éphémères, passagers, cassables. Hein, je vous ai déjà dit que mon père, un jour, a testé une assiette incassable. Il s'est mis dessus, puis elle a éclaté en 1000 morceaux. C'est vrai qu'il faisait 200 coquelets, mais quand même... C'était marqué incassable, il dit, je vais l'essayer. Mais l'homme dit des choses, hein? L'homme pense que, oh, c'est incassable et tout ça, je n'ai pour la vie, je suis correct, je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est tout éphémère, ça. Dieu veut que notre confiance repose en lui. Dieu veut que notre confiance repose dans le Seigneur. Vous connaissez les publicités? Garantie 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas toujours garanti à vie, hein? Mon auto est garantie 3 ans, 60 000 km. Parce qu'ils peuvent pas garantir plus que ça. Parce qu'ils savent pas ce qui va arriver après ça. Et c'est la même chose avec les garanties à vie. Hein? Garantie à vie, garantie sa vie, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ta vie. J'ai fait mes freins, moi, ils m'ont dit garantie à vie. Quand j'étais allé au garage, j'étais plus garantie à vie. Ah, ben, c'était pas les disques, c'est les plaques. Ah, qui sont garanties à vie. Donc, c'était plus la même chose. L'homme, souvent, il s'appuie sur des choses mensongères, des choses qui ne tiennent pas la route. Mais nous, enfants de Dieu, on doit s'appuyer sur du solide. Et c'est quoi le solide? C'est le monde passe, c'est convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia! Le monde passe. La convoitise passe, les richesses passent, la famille passe, le souvenir de l'homme passe, les honneurs passent. Les avantages de ce monde passent. Tout passe. Mais la seule chose qui demeure, c'est la parole de Dieu et ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Tout est accompli. Il y a un verset au début de ma vie chrétienne qui est venu me frapper, moi, comme un marteau en pleine figure, dans un temps où j'attachais de l'importance à ce que les gens disaient, dans un temps où l'opinion des autres dirigeait ma vie, dans un temps où j'essayais de faire plaisir à tout le monde. Le Seigneur m'a donné ce verset. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Oh! Ce fut comme un coup de marteau. Ça te sert à quoi d'avoir un tas d'amis? Ça te sert à quoi d'avoir un tas de richesses? Ça te sert à quoi d'avoir ceci ou cela ou toutes sortes d'avantages ou des biens en abondance et tout ça? Ça te sert à quoi? Que tout le monde te louange, qu'on te vante ici et là, qu'on t'y met du fond dans la place. Ça te sert à quoi tout ça? Si tu perds ton âme, si tu es perdu, ça te sert absolument à rien. Si tu aimes plus le plaisir que Dieu, à quoi ça te sert? Ce qui est important pour nous ce matin, c'est Jésus. Ça, c'est du solide. Alléluia! Alléluia! Jésus a dit, « Ne savez-vous pas, en genre, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Ça, c'est du solide. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle que je vous ai annoncée, a dit Pierre, par l'Évangile. Tout est accompli. Ça, c'est du solide. C'est ta foi. Alléluia doit s'appuyer sur cela. Amen. Est-ce que ta foi s'appuie sur ça? C'est quoi ta sécurité ce matin? Un jour, Jésus a donné une parabole, la parabole de cet homme riche qui avait beaucoup de biens. Il y avait tellement de biens qu'il a fallu qu'il s'assoie puis qu'il planifie. Il fallait qu'il fasse plus de construction. Ça y en prenait plus pour ranger toutes ses affaires. Bon, il s'est assis, bon, on va défaire les murs, on va rallonger ceci, on va faire telle chose. Bon, puis là, on va amasser, on va planifier tout ça. Parfait. Puis là, il range tout ça. Puis il dit, ah, à un moment donné, moi, tu sais, je vais t'avoir toute une retraite. Ça va être merveilleux. Je vais pouvoir m'asseoir et relaxer et prendre plaisir et tout ça. Insensé, lui dit le Seigneur. Insensé. Tous ces agrandissements, pour qui tu les as faits? Toutes ces richesses, c'est pour qui? Parce que cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Qu'est-ce qui est important? C'est de savoir amoncer telle chose. Il dit, savais à qui ça va servir maintenant? Un coup, tu vas être mort. Il dit, voilà ce qui arrive pour celui qui n'est pas riche pour Dieu. Notre richesse, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Mettre sa foi en Dieu, c'est du solide. C'est du solide. Si vous fermiez vos yeux ce matin, juste un instant, vous fermiez vos yeux et vous disiez, je suis à quelle distance de l'éternité? Juste fermez vos yeux, pensez-y, à quelle distance êtes-vous de l'éternité? Un souffle. Quand Dieu dit, le souffle arrête, tu es dans l'éternité. Tout ce que tu as, à qui ça sert? À qui ça sent? Vous êtes là ce matin? Des fois, je suis comme ça. Oui, c'est comme ça. Je dis, Seigneur, en un instant, oh, si le souffle arrêtait, je suis face à face avec toi. Ouh. Je peux revêtir mon domicile céleste. Je peux profiter des mets de ta table céleste. Je me retrouve dans ta joie parfaite. Je me retrouve dans ta paix parfaite. je me retrouve dans ta gloire. Oh, seul ce corps m'empêchait de vivre ça. Oh, il est avantageux, hein? Paul, il dit, j'ai hâte de partir. Bon, il dit, à cause de vous, il faut que je reste encore, mais il dit, j'ai hâte de partir. Il dit, ce corps m'empêche de vivre. Tout ce que le Seigneur a pour moi, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Avez-vous peur de la mort? Alléluia! Si on a peur de la mort, on entend parler de la mort ce matin, Dieu nous fait peur. Eh bien, posez-vous des questions. C'est la seule chose qui vous empêche maintenant d'être avec Christ et de vivre pleinement tout ce que le Seigneur a pour vous. Alléluia! À moins, peut-être, que tu ne sois pas tout à fait en règle. Là, peut-être, tu as peur. Parce que tu as pensé plus à tes greniers, tu as pensé plus à tes choses, tu as planifié toutes sortes de choses, tu vois toutes ces choses tomber tout d'un coup. Parce que le jour où Dieu dit, c'est le temps, c'est le temps. Oui, mais moi, j'étais en bonne santé. T'as beau être en bonne santé. Si Dieu dit, c'est le temps de le rencontrer. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois toujours être prêt. Alléluia! Que s'avérait-il à un homme de grailler tout le monde? S'il perd son âme, insensé, insensé, ce sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, comme un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille. Certains ont vu une petite porte à Jérusalem qui s'appelait le trou de l'aiguille, puis que si tu devais passer par là et tout ça, puis qu'il y avait toutes sortes de choses sur le chameau, il devait tout enlever s'il était sur le chameau se mettait à genoux puis passer. C'est une belle image, hein, parce que le royaume de Dieu, eh bien, c'est en s'humiliant. Amen. On est en prêt à renoncer à tout. Mais on n'a pas trouvé beaucoup de faits réels de ce porte s'appelant trou de l'aiguille. Et pour moi, le trou de l'aiguille, c'est le trou d'une aiguille. Puis un chameau, c'est un chameau. Il est difficile de passer un chameau dans un trou d'une aiguille. C'est impossible. Et c'est l'histoire, c'est ce que Dieu, Jésus voulait dire. C'est impossible. Parce que les gens, ils ont dit, qui peut être sauvé? Il dit, c'est impossible. À l'homme. L'homme ne peut pas se sauver. L'homme, c'est un incompétent sur le point de vue de l'homme. Il ne peut pas se sauver. Ce qui est impossible à l'homme est possible, hein? Dieu, alléluia! Alléluia! Et c'est ce qui fait que la richesse, bien souvent, vient accentuer ce niveau de difficulté de faire confiance à Dieu. Il est difficile, encore plus difficile pour un riche, parce qu'il parle du jeune homme riche qui était prêt à suivre le Seigneur partout, mais il n'était pas prêt à renoncer à tout. Enfant de Dieu, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Nous ne sommes pas maîtres de nos plans. Nous ne sommes pas maîtres de nos projets. Dieu n'est pas contre qu'on ait des projets. Dieu n'est pas contre qu'on ait des richesses et tout ça. Mais on n'est pas maître de ces choses. Et notre foi ne doit pas dépendre de ces choses. Est-ce que ta sécurité dépend de ces choses? Est-ce que ta confiance repose sur ces choses? Lundi matin, tu vas courir à la banque, voir comment qu'il te reste dans ton compte. Et s'il y a quelques centaines ou milliers de dollars, t'es heureux. S'il y a 0 $, tu paniques. Ta foi repose sur quoi? Sur celui qui a toute richesse ou sur la caisse populaire des jardins? Ou sur les banques qui un jour vont cracher? Ou sur le temps de la grande dépression, des choses, des gens étaient riches et tout ça, il y a eu un crash boursier. Il y en a qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuyaient sur leur richesse. Tu n'es pas maître de demain et tu n'es même pas maître d'aujourd'hui. Ce que tu as planifié risque même de ne pas arriver. Je ne veux pas vous décourager, mais... Je ne veux pas vous décourager. J'espère que ton poulet n'est pas dans le four. Attends un peu. C'est des choses qui risquent de ne pas arriver, c'est vrai? C'est vrai? Il n'y a rien de nouveau à cela. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire, enfant de Dieu. On peut planifier. Paul a dit par révélation au chef du bateau et tout ça, même s'il était prisonnier, il a quand même averti. Il dit, écoute, on serait mieux de ne pas prendre la mer. Parce que ça ira pas bien. Ah! Hey, écoute, Paul, on est des marins. Le bateau est en pleine forme. Il fait un petit vent léger. une petite brise. On prend hein, la mer. Et la Bible dit dans ce verset, se croyant maître de leur destin, se croyant maître de leur destin, se croyant maître de leur projet, se croyant maître de tout ce qu'ils avaient planifié, ils prirent la mer. Et quand le vent commença à souffler, tout ça, ils se mirent à paniquer. Oh, qu'est-ce qui arrive? On va tous mourir. Parce que tu n'es pas en contrôle. Parce que Dieu est en contrôle des vents. Dieu est en contrôle des temps et des circonstances. Dieu est en contrôle de toutes choses. Mais il y avait un homme sur ce bateau qui faisait confiance à Dieu. Il dit, n'ayez pas peur, il n'y a pas personne qui va se perdre. Parce que le Dieu que je sers m'a dit que ça n'arriverait pas. Les gens ont tous repris confiance. Mais au début, ils se croyaient maîtres de leur plan, de leur projet, tout ça. Personne ici n'est maître de ce qui va arriver dans les prochaines heures. Il faut se confier en l'Éternel. Il faut se confier en Dieu. C'est le temps, là. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est le temps de s'appuyer. Tout est accompli, enfant de Dieu. Tout est accompli. Dieu a tout fait. Alléluia. Je n'ai pas à avoir crainte. Je n'ai pas à avoir peur. Si Dieu est dans ma vie, alléluia. Oh, merci Seigneur. Si Dieu est dans ma vie, alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Si Dieu est dans ma vie, je n'ai rien à craindre. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je n'ai rien. C'est Dieu qui décide. Si je vais être riche ou pauvre, si je vais connaître l'épreuve ou non dans certains temps, si ça va être l'ombre de la vallée de la mort ou les vers pâturages, c'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui a le pouvoir. S'il a le pouvoir de donner et de reprendre sa vie, il a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Amen. Alléluia. Il l'a fait pour Daniel, il l'a fait pour Shadrach, il l'a fait pour Meshach, il l'a fait pour Abednego, il l'a fait pour Joseph, il l'a fait pour tous ces hommes. Il le fait encore pour nous aujourd'hui. Amen. Bon. Tout est accompli. C'est fait. C'est fait. C'est fait. On n'a rien à enlever, puis on n'a rien à ajouter. C'est fait. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on s'en va tous ce matin. Tout est fait, mais on reste. <C'est>... Tout est accompli. Vous savez, on a un arrière-plan catholique, nous, et souvent, on pense qu'il faut faire de quoi pour avoir le pardon de Dieu. Hein? Que ça peut pas être aussi simple que ça, que simplement on demande pardon, puis le Seigneur nous pardonne. Mais tout est accompli. C'est fait. Les péchés que le passé, présent, futur, Dieu a agi, Dieu a pardonné, Dieu a souffert pour ça. Amen. Mais nous, on a souvent comme le pardon par compensation. On aime se payer une bonne conscience. Et parce que vu que dans le passé, on devait faire des œuvres, on devait réciter des chapelets ou toutes sortes de prières, tout ça, on vient des fois, on a encore cette pensée. On a de la difficulté. Puis on dit, il faut bien que je compense à quelque part. J'ai péché, mais je vais aider quelqu'un. J'ai péché, mais je vais donner un petit peu plus. J'ai péché, mais je pense que je vais aller à l'Assemblée, tout ça, ou je vais faire plus d'œuvres et tout ça. On agit par compensation. On se paye une bonne conscience. Jésus a dit, tout est accompli. Tu n'as pas à agir par compensation. Tu n'es pas sauvé par les autres. Tu es sauvé par la foi en Jésus. Amen. Alléluia. L'important ce matin, c'est de se confier en Dieu. Amen. Alléluia. De s'en remettre au Seigneur. Nous avons tout par grâce. Oh, l'orgueil nous prive du tout par grâce. Saviez ça? L'orgueil, c'est le frein à main de la bénédiction de Dieu. Lorsqu'on commence à penser qu'on est capable de faire quelque chose, lorsqu'on commence à penser qu'on est maître de certaines choses dans nos vies, tout ça, c'est là qu'on se prive de la bénédiction de Dieu. C'est comme si vous roulez sur l'autoroute, vous dépassez les limites de vitesse, vous n'avez pas attaché votre ceinture, vous conduisez à toute allure. Pourquoi? Parce que vous dites, je suis un bon conducteur. Je suis un maître dans la conduite. Moi, je peux me permettre de rouler à pleine vitesse. Puis là, tu dis, pendant que tu roules à pleine vitesse, je pense que je vais essayer le frein à main. S'il marche. Et là, vous mettez le frein à main, qu'est-ce qui se passe? Vous faites des tonneaux. Puis si vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas fort. Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil est le frein à main. Quand tu penses que tu peux prévoir et faire tes choses, et qu'est-ce que Jacques a dit? Vous qui ne savez pas ce qu'une journée peut enfanter, à vous qui dites, demain nous ferons ceci, et nous ferons cela, nous irons là, nous irons ici, nous gagnerons telle chose. À vous qui dites cela, vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, je ferai ceci, si Dieu le veut, je ferai cela. S'en remettre constamment au Seigneur. Amen. Alléluia. On n'a rien ajouté, on n'a rien enlevé à la parole de Dieu. Elle est complète. Et même l'Apocalypse dit que si tu ajoutes ou tu enlèves quelque chose, ben il y a des dangers. Donc, on n'a rien enlevé et ajouté au salut du Seigneur. Nous sommes pardonnés. Amen. Si tu as péché, tout ça, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Alléluia. Un jour, Paul a dû écrire aux Corinthiens puis leur dire, écoutez, j'entends dire parmi vous qu'il y a des gens qui disent que la résurrection des morts, ça n'existe pas. Là, il dit, je ne comprends plus. Si la résurrection des corps après la mort n'existe pas, Jésus non plus n'est pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce qu'on vous dit n'est pas vrai. Et si tout n'est pas vrai, ça va mal. Il dit, nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. Si notre espérance n'est que dans ce monde, en Jésus, nous sommes les plus malheureux du monde. Si on a juste l'espoir en Christ pour les choses de ce monde, pour les richesses, pour les biens, pour la santé, pour ci, pour ça, on est les plus malheureux. Parce que Dieu nous a régénéré tout ça. Il a mis cet esprit de résurrection en nous. Pourquoi? Pour l'espérance à venir, pour la gloire à venir, pour l'espérance que Dieu nous donne. Christ, savoir Christ, l'espérance de la gloire, dit Paul. Savoir Christ, l'espérance de la gloire. Alléluia! Cette espérance est une motivation pour eux. Alléluia! Colossiens 1, 27, c'est Christ est ma vie. Amen! Colossiens 27, c'est savoir Christ, l'espérance de la gloire. On n'a rien, enfant de Dieu, à ajouter ou enlever à ça. Ce qui est important pour nous, c'est Jésus. Tout est accompli. Pas juste que, oh, ici-bas, mais éternellement dans sa présence. Alléluia! On ne peut pas enlever. Vous ne pouvez pas enlever ses promesses. Ses promesses sont oui et amen en Jésus. Des fois, on est comme ça, « Ah oui, je crois en Jésus pour le salut, tout ça. » Mais pour ce qui est de la guérison, pour ce qui est de la manifestation des dons et tout ça, moi, ça, je mets ça de côté. Tu enlèves rien et tu ajoutes rien. Ah, ben si tu avais la foi, tu ne serais jamais malade. Si tu avais la foi, tu ne serais jamais dans la disette. Tu n'aurais jamais d'épreuve. Tu n'aurais jamais d'humiliation. D'affliction. Tu retranches rien, mais tu n'ajoutes rien. Parce que cette pensée est fausse. Jésus n'a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuve. Jésus n'a jamais dit qu'on ne serait pas malade. Jésus n'a jamais dit qu'on ne souffrirait pas, qu'il n'y aurait pas la vallée de l'ombre de la mort. N'ajoute pas sa parole. Prends-la telle qu'elle. Il a dit qu'il serait avec nous en tout temps. Amen. Il a dit qu'il serait avec nous. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'a. Alléluia, tout est accompli. Tout est fait pour ton pardon et tout. Et vous savez ce que ça veut dire aussi, tout est accompli? C'est que si tout est accompli, tout reste à faire. On arrête là. Non, non. Vous allez dire... Pasteur, vous vous contredisez. Non, tout est accompli, mais tout reste à faire dans nos vies. Parce que tout est accompli ne veut pas dire que ça va s'accomplir dans ta vie. Après la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le ciel s'obscurcit, le chauffe-voile du temple s'est déchiré, les rochers sont brisés, les morts sont ressuscités, tout ça. Et Jésus est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé les heures après avoir vu toutes ces manifestations de la puissance de Dieu lors de la mort de Jésus? Eh bien, pour la plupart des gens, ça n'a rien changé. Le fait de dire tout est accompli n'a rien changé. Les pharisiens, pour la plupart, ont continué d'être pharisiens. Ils ont même dit, pour éviter justement qu'on pense qu'il est ressuscité, on va faire telle ou telle chose. Ils ont même menti, ils ont payé des gens et tout ça. Les gens n'ont pas changé nécessairement. Les gens se sont levés le matin, ils ont retourné travailler, ils ont fait leur affaire. Ils ne sont pas nécessairement, ils ont peut-être dit, c'est demain, t'as entendu, il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Le tout est accompli, il ne veut pas dire tout accompli dans ta vie. Il reste tout à faire pour nos vies. Et comment est-ce que le tout accompli peut s'accomplir dans nos vies? C'est par la foi. Tu dois y croire pour toi. Tu dois y croire pour toi. Tu dois croire que Jésus pardonne tous tes péchés. Tu dois croire que Dieu a tout accompli. Tu dois croire que Dieu est un Dieu de miracles. Tu dois croire que Jésus fait la transformation dans ton cœur, que Dieu te sanctifie, te purifie, te remplit de son esprit. Amen. Tout est accompli, va s'accomplir si tu y crois. Parce que le juste vivra par... Alléluia! Donc ce matin, on sait que tout est accompli. Jésus l'a fait, Jésus a pris nos péchés, Jésus sanctifie nos vies, Jésus veut nous donner une table d'abondance. Mais pour que tu le vives, il faut que tu places ta foi en Jésus. Il faut que tu te l'appropries. Ça t'appartient. Amen! Jésus est mort pour toi. Jésus a souffert pour toi. Jésus a dit, tout est accompli, c'est pour toi. C'est pour toi que j'ai fait ces choses. Et on doit s'associer cette parole pour nous ce matin. Alléluia! La foi, c'est l'amplificateur de sa parole. Vous savez que le tout accompli peut se mourir dans les échos. Quand vous criez dans une vallée, allô, 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 allô. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. À un moment donné, ça peut se mourir. La foi vient amplifier. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Alléluia! Ça fait l'inverse. La foi vient amplifier le tout est accompli dans ta vie. Alléluia! Afin que tu vives en victorieux maintenant. Afin que tu vives ce que Jésus a fait pour toi à la croix du calvaire. J'ai posé la question, vous l'avez peut-être déjà entendu. Qu'est-ce qui est arrivé au village des Samaritains qui ont refusé de loger Jésus? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que le feu est descendu du ciel et les a consumés? La réponse est simple. Il n'est rien arrivé. Les malades sont restés malades. Les infirmes sont restés infirmes. Les démoniaques sont restés démoniaques. Les fraudeurs sont restés des fraudeurs. Les menteurs sont restés des menteurs. Et les gens continuent de vivre comme ils vivaient. Ça n'a rien changé. La foi, lorsqu'on laisse Jésus, on croit en Jésus, il se passe quelque chose. Amen. Alléluia. Si Jésus a tout accompli, ça veut dire qu'il a pardonné mes péchés. Je suis délivré de la colère à venir. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Je peux le servir sans crainte. Je vis en moi la puissance de sa résurrection. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux marcher sur les serpents et les scorpions. Je n'ai pas à me conformer aux choses de ce monde. Maintenant, tout est accompli dans ma vie. Alléluia! Ça fait partie de moi. Oh, est-ce que ça fait quelque chose ce matin? Le tout est accompli dans vos vies. Ça vous dit quoi? Amen. Il n'y a aucune raison ce matin de ne pas recevoir. Il n'y a aucune raison de ne pas recevoir. Alléluia. Ah oui, mais moi j'ai bien des péchés. Il les a pris. Moi je suis faible. Il te fortifie. Moi je ne sais pas quoi faire. Il te conduit. Moi j'ai toutes sortes d'obstacles dans ma vie. Il les aplanit. Ah, ma vie me semble plate. Il la vivifie. Ah, je suis malade. Il te guérit. Ah, tu te sens vide. Il te remplit. Ah, je me sens pauvre. Il t'enrichit. Ah, je me sens tout confit, tout ça. Il te bénit. Il y a réponse ce matin à toutes choses. Parce que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le oui, c'est à lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Il n'y a pas, je ne sais pas. Il n'y a pas, je ne suis pas sûr. Il n'y a pas, non, je ne veux pas. Tout en Jésus est oui. Oui. Parce que son nom est oui. Parce que la Bible dit qu'il est l'amen. Son nom à Jésus est aussi oui. Il s'appelle Amen. Oui, oui, mais pourquoi je n'obtiens pas tout ça? Parce que le oui doit être en toi. Le oui doit s'accorder avec son oui. Le oui, oui. Oui est en toi, tu dois dire oui. Tu dois t'unir au oui du Seigneur. Alléluia, tout est accompli. Oui, tout est accompli dans ma vie. Dieu a fait toutes ces choses et c'est pourquoi que le oui, le amen est prononcé par nous. En Jésus, alléluia, la gloire de Dieu. Maintenant, ainsi soit-il dans ma vie. Ainsi soit-il dans ma vie. Je veux que tout ce que Dieu a pour moi, je veux qu'il puisse l'accomplir. Pourquoi vous travaillez pour de l'argent? Pourquoi vous travaillez pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous travaillez puis vous n'êtes pas rassasiés? Écoutez-moi, dit le Seigneur, et vous mangerez ce qui est le meilleur. Vous vous délecterez de mets succulents. Alléluia. Oui, mais. Laisse tomber des mains si tu veux manger des mains. Si tu veux manger des meilleurs mains, mets les mains de côté pour manger des meilleurs mains. Hein? Les mains succulents du Seigneur, c'est pour nous. Alléluia. Oh, le Seigneur n'a pas pour nous. C'est drôle, il y a un frère qui est venu me voir ce matin. Il dit, je suis en train de lire un livre. C'est échec à la médiocrité, hein, c'est ça? Ben, c'est ce que je voulais parler. L'échec à la médiocrité, enfant de Dieu. Je n'ai pas relu le livre, mais Dieu n'a pas une vie médiocre pour nous. Le Seigneur a une vie de qualité pour nous. On ne doit pas s'éloigner du tout est accompli si on veut vivre une vie de qualité et non de médiocrité. La médiocrité, c'est quoi? C'est l'insuffisance de qualité. C'est l'insuffisance de résultats. C'est l'insuffisance, oh, de vivre le comblé dans le Seigneur. Dieu ne veut pas la médiocrité, Dieu veut la qualité. Alléluia! La qualité passe par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Amen! Alléluia! On l'avait déjà dit, ça. Hein? La qualité doit y être quelque chose. Amen! Vous savez, école, il y a des gens, je me souviens, qui se contentaient de la note de passage. Si c'était 60 % en autant qu'il y avait 60 % ça suffisait. Pas beaucoup d'ambition, pas beaucoup de fierté, tout ça. En autant qu'il passe, ça fonctionne. Si on est dans la moyenne, c'est correct. Des fois, on est comme ça dans la vie chrétienne. C'est quoi la note de passage? En autant que je passe, je suis correct. Moi, Je fais ma petite prière par jour. Je demande au Seigneur, bénis ma journée. Je lis mon chapitre par jour. C'est correct. De temps en temps, je vais à l'église, ça m'arrive. Des fois, j'aide quelqu'un, frère, ça. Je reste sa moyenne. Des fois, je me demande si je ne suis pas sous la moyenne, mais quand même, j'essaie de me maintenir. Ça, c'est de la médiocrité. C'est la médiocrité. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre la médiocrité. Il est appelé à vivre la qualité. Alléluia! Ce que Dieu nous appelle, tout est accompli. Si tout est accompli, ce n'est pas la médiocrité que Dieu m'appelle. C'est la qualité dans le Seigneur. Le Seigneur est le meilleur pour nous. Et le meilleur, Seigneur, ce n'est pas juste de nous éviter l'enfer. C'est qu'ici-bas, on puisse servir à sa gloire. C'est qu'on puisse agir, participer à l'œuvre de Dieu. Alléluia! Vous savez qu'au ciel, les couronnes, les récompenses, un nouveau corps, un nouveau nom, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, toutes ces choses nous sont en réserve. Alléluia! Alléluia. Ici-bas, il nous donne aussi des choses présentes et des choses à venir, nous dit la parole de Dieu, que maintenant, on peut vivre une vie chrétienne de qualité, une vie chrétienne remplie. Oh, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. La qualité passe par le Saint-Esprit. Alléluia, j'ai besoin du Saint-Esprit. Tout est accompli. Le Seigneur a tout fait pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Il est avantageux que je meure. Il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je quitte ce monde afin de vous donner la qualité. Afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Pas une vie médiocre. Une vie de routine. Une vie de « Oh, je fais ma petite affaire chrétienne. » Une vie borderline. Une vie sans ligne. Je marche sans ligne. D'un côté, le monde. De l'autre côté, des choses du Seigneur, mais je reste sans ligne. J'ai pas marché dans le monde. Si tu marches sans ligne, tôt ou tard, tu vas tomber. Tu vas retourner ce que tu as vomi. Tu vas retourner aux choses de ce monde parce que tu marches borderline. Tu marches juste sans ligne. Tu fais juste ce que tu penses que Dieu veut que tu fasses. Juste. Certaines bonnes choses, mais. Vous savez que Jésus, à la croix, il a dit j'ai soif. On lui a apporté du vinaigre, mais il a dit d'autres choses. Et il l'a pris sur la langue, il a goûté, puis il a refusé de l'ingurgiter. Jésus a goûté le vinaigre de ce monde pour nous. Et c'est York. Il a goûté la méchanceté, la calomnie, la moquerie, les coups, la violence, mais il a refusé de l'ingurgiter. Et c'est ça, enfant de Dieu, on va y goûter aussi aux choses de ce monde, les moqueries, tout ça, mais on ne doit pas l'ingurgiter. Ce n'est pas nous qui doit devenir des moqueurs, et ce n'est pas nous qui doit agir selon le monde, et ce n'est pas nous qui doit agir avec violence, et ce n'est pas nous qui doit rendre l'injustice, rendre le mal pour le mal. On va y goûter. Mais on ne l'avalera pas, parce que Jésus a tout accompli. Il est ma justice. Alléluia! Je veux bénir mes ennemis. Alléluia! Je veux bénir ceux qui me font toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Et maintenant, je peux agir comme Dieu veut que j'agisse. Alléluia! Merci, Seigneur. Tout vous est accompli pour ma vie. Ne vous éloignez pas. De tout est accompli. Ne vous éloignez pas de votre premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es éloigné. De tout est accompli. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es éloigné de ton premier amour. Et c'était quoi ton premier amour? Le jour où tu es venu à Jésus et tu as goûté le pardon de Christ. Et que tu as dit, Seigneur, je ne suis pas capable, faut que tu pardonnes mes péchés, viens dans ma vie. Oh, je t'en ai de mener cette vie plate. Je veux maintenant te suivre et t'obéir. Et l'Esprit de Dieu rentre en toi. Tu étais scellé du Saint-Esprit. Oh, j'ai la paix. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, on a commencé à prendre la Bible. On dit, Seigneur, tu as des choses. Oh, regarde ça. Tu te révèles à moi. Il y a des choses que je comprends maintenant. Alléluia. Oh, merci Seigneur, je viens à toi, je veux que tu fasses ceci. Oh, tu as le baptême du Saint-Esprit, merci Seigneur, alléluia, je vais être rempli du Saint-Esprit. Et les mois passés, tout ça, et on s'est affairé toutes sortes de choses, il est arrivé toutes sortes de choses, on s'est éloigné, du tout est accompli. Et là, la vie chrétienne est devenue dure, pénible, routinière, plate. Tandis qu'elle devrait être excitante et de qualité. Et non de médiocrité. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es éloigné de ça. Tu es éloigné de ce que j'ai fait pour toi à la croix. C'est ce que Paul avait dit aux Éphésiens, qui les a vus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Non, bien, on va régler ça. Parfait. Plus tard, il va leur écrire, ne soyez pas enivrés de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Parfait. Là, on arrive en Apocalypse. Écrit à l'église d'Éphèse. Ceux qui, au début, ont commencé par le Saint-Esprit, ceux qui ont été exhortés de continuer par le Saint-Esprit, et ceux qui, maintenant, ont abandonné le Saint-Esprit. Ce que que j'ai contre toi, c'est que tu t'es éloigné de ce qui fait la force, de ce qui fait la force, pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Ah, on est dans des temps difficiles, puis c'est dur de vivre la vie chrétienne, puis c'est pénible de vivre la vie chrétienne, c'est plus comme c'était. Oh, la vie chrétienne est lourde. Hop. Oui, les temps sont difficiles, mais voyez-vous, la vie chrétienne, il y a des bons temps. Avez-vous des bons temps ce matin? Attendez, je n'ai pas fini. Non, non, on termine. Mais même si c'est difficile, même s'il y a des choses difficiles autour, là où le péché a abondé, aujourd'hui, le jour du salut, c'est aujourd'hui le temps d'être exaucé. C'est le temps favorable est aujourd'hui. Alléluia. C'est maintenant qu'on peut vivre pleinement ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. Jésus a payé pour nous. C'est maintenant. Oui, c'est difficile. Oui, il va y avoir des temps plus difficiles. Mais là où le péché est abondé, là où il y a toutes sortes de troubles autour, là où ça augmente, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia! Si Paul et Silas étaient heureux en prison, c'est que la grâce de Dieu surabonde. Et que même si on vit des temps difficiles, la grâce de Dieu est ici. Alléluia! Parce qu'on ne s'éloigne pas, on se rapproche de la Sainte Sainte. On se rapproche de ce que représente la Sainte Sainte. On se rapproche de l'œuvre de Dieu. Alléluia! Un jour, le Seigneur a parlé à Josué. Il dit, écoute, Moïse est mort. Moïse est mort. Il est temps que tu passes à autre chose. Moïse est mort pour que tu vives ce que tu vis présentement. Josué, tu es appelé à vivre ça parce que Moïse est mort. Donc, parce que Moïse est mort, tu vas te lever, puis tu vas prendre Canaan. Amen. Et Moïse représente Christ, la loi, les prophètes et tout ça. Jésus, Dieu qui parlait à Moïse face à face, comme aucun homme avec qui il a parlé, comme à Moïse, il était le prophète, et tout ça. Mais il dit, il est mort justement pour que tu puisses te lever. Et Christ est mort pour ça. Christ est mort afin qu'on puisse se lever et saisir Canaan. Alléluia! Les uns les autres. Il est ressuscité justement qu'on puisse saisir. C'est plus à regarder. Regarde pas Moïse en chair et en os. Tu ne le verras pas, il est mort. Maintenant, c'est à toi de te lever. Pourquoi vous pensez que l'archange Michel se disputait avec Satan le corps de Moïse? J'ai eu des problèmes avec ce verset-là. Pourquoi Michel se disputait le corps de Moïse avec Satan? J'ai fait des recherches et je ne les ai pas trouvées satisfaisantes. Jusqu'au jour où le Seigneur me dit, pourquoi il disputait son corps? Parce que le peuple, bien souvent, c'est un peuple idolâtre. Ils ont fait un veau d'or. Quand ils ont mis le serpent d'airain sur une chose, ils ont été guéris, ils en ont fait un idole, ils ont donné un nom. Lorsque l'éphod de Gédéon, il a fait un éphod, ils l'ont mis là, puis ils ont fait une idole. Mais le corps de Moïse, Satan, voulait l'avoir. Parce qu'il savait quoi faire avec. Il voulait que les gens en fassent une idole aussi. Parce que personne ne sait où Moïse a été enterré. Personne. On sait dans quelle région la Bible dit, mais la Bible dit que personne ne sait où Moïse est enterré. Et pourquoi qu'on ne le sait pas? Tu n'en feras pas une idole. Et c'est la même chose avec Christ. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus sur la croix. Ça ne revient de te faire une idole d'un crucifix ou de penser telle ou telle chose, ou de faire des images taillées de Jésus et tout ça. Jésus n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour quoi? Pour que tu te lèves. Il est ressuscité maintenant, il vit dans ta vie. Pour que tu te lèves et que tu puisses saisir Canaan dans le nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi et prends le pays. Lève-toi et saisis Canaan. Lève-toi et entreprends. Entre et prends. Entreprends dans le Seigneur et fais l'œuvre de Dieu. C'est ce que je t'appelle. Fortifie-toi, prends courage. À cause, justement, que Jésus est mort, tout est accompli. maintenant on peut vivre la vie de Christ. Alléluia! N'est-ce pas une bonne nouvelle? On va prendre la Sainte-Sainte ce matin ensemble et avec cette pensée, enfant de Dieu, que maintenant, alléluia, je peux m'appuyer sur le Seigneur et manger les bonnes choses du Seigneur.